BFM Stratégie avec Frédéric Simotel sur BFM Business.
Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle session de BFM Stratégie. On va parler, tiens, on parle souvent de sujets santé ici même, alors sur BFM Business et dans cette session BFM Stratégie, mais rarement de la santé des femmes. Et pourtant, voilà, les femmes, c'est 50% de la population mondiale. Bien, figurez-vous, et on va revenir sur ce chiffre, leur santé ne capte que 6% des investissements privés en santé. Donc, oui, les femmes vivent plus longtemps, mais elles vivent plus longtemps, mais en plus mauvaise santé. Alors, il y a des sous-investissements chroniques, des maladies mal comprises, des retards de diagnostic. La santé des femmes pose à la fois donc un enjeu sanitaire, économique et social. On va parler de tout ça. On va notamment s'intéresser au marché européen et français avec nos deux expertes qui sont avec nous. Johanna Benesti, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice associée senior au BCG, experte sur les questions de santé. Et Elsie Boglioli, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, fondatrice et directrice générale de BioUp, experte des biotechnologies et de l'innovation en santé. Johanna, je démarre avec vous avec ce chiffre. Je disais, j'étais surpris quand, en préparant cette émission, donc 50% de la population mondiale. Là, oui, voilà, c'est le chiffre que l'on, sur lequel on est tous à peu près d'accord. Et la santé des femmes ne capte que 6% des investissements privés. Comment ça se fait?
Il y a un phénomène connu qu'on appelle l'invisibilisation. Et qui est un phénomène historique, en fait. La recherche en santé a été conçue autour des hommes. C'est-à-dire que dans les essais cliniques, on a majoritairement inclus des hommes, avec l'argument qu'on entend encore aujourd'hui que les femmes et leurs hormones sont compliquées à comprendre, à gérer, et que ça va finalement atteindre la fiabilité de nos...
C'est une image, parce que quand on parle de maladie des femmes, on pense au cancer du sein, on se dit, mais non, mais il y a beaucoup de recherche qui est faite dans ce domaine-là.
Il y a beaucoup de recherche dans ces domaines-là. Alors, c'est assez intéressant. Quand on dit 50% et 6%, on ne s'attend pas forcément à ce que, de toute façon, ces 6% arrivent à 50%.
Oui.
Il est normal que les femmes bénéficient de la recherche générale. Mmh. Mais donc déjà, inclure les femmes dans les données cliniques, dans les essais cliniques, c'est quelque chose qui a dû attendre une loi en 93 aux États-Unis pour que ce soit fait de manière systématique. Donc ça prend énormément de temps. Ensuite, les femmes sont affectées de manière disproportionnée par certaines maladies, par certaines pathologies, et elles réagissent de manière différente. Donc on a besoin d'études spécifiques qui prennent en compte leur biologie. Parce qu'on va avoir des traitements, des réactions différentes au traitement ou des présentation sur des diagnostics qui seront différentes. C'est ce qui mène à des errances thérapeutiques absolument importantes.
Oui. Bon, on avait beaucoup parlé, je me souviens une fois, sur la partie cardiovasculaire, justement.
Sur la partie cardiovasculaire, par exemple, on a beaucoup plus de risques pour les femmes. Mmh. Alzheimer multiplié par deux, l'ostéoporose beaucoup plus importante aussi. Et on a un deuxième phénomène qui est la minimisation des pathologies féminines qui va mener à des tabous. Donc, par exemple, l'endométriose, ça reste une femme sur 10, ce qui est colossal. Pourtant, le diagnostic prend jusqu'à 7 ans. La ménopause, on n'en parle pas,
oui.
Ce qui est quand même
toutes les femmes vieillissent, enfin, ils arriveront à
donc
un
moment. C'est quand même un tiers de leur vie, c'est toutes les femmes et un tiers de leur vie. Le syndrome des ovaires polykystiques, par exemple, c'est 10% des femmes. Donc ça, c'est quand même colossal. Après, au niveau investissement, puisqu'on en parle, il y a un biais à la rentabilité un peu à court terme, qui est assez, enfin, qu'on comprend, qui est historique. Et du coup, les investisseurs vont se pencher sur des marchés qu'ils perçoivent comme plus universels.
D'accord.
Donc, par exemple, des choses assez identifiées, 90% des investissements dont on parlait vont vers les cancers féminins, la santé reproductive ou la santé maternelle.
D'accord.
Et laissent du coup des pans entiers de côté. Pourtant, l'opportunité économique est réelle. On a chiffré que si on arrivait à subvenir aux besoins, donc couvrir les besoins sur seulement 4 pathologies, donc la ménopause, l'ostéoporose, le cardiovasculaire et Alzheimer, on pouvait faire quadrupler le marché aux États-Unis et arriver à 100 milliards de dollars à horizon 2030.
Oui, parce que je pense que si on fait un calcul, enfin, statistique un peu, mais enfin, il faut bien les faire dans un domaine, c'est le nombre de femmes affectées est assez important, quoi.
Sur certaines pathologies, enfin, sur la ménopause, c'est toutes les femmes, sur l'endométriose, c'est 10%, et ensuite, sur les maladies cardiovasculaires, les risques sont plus élevés pour toute la population féminine.
Et vous disiez, pour parler chiffres, on a compté ça, ça se compte en dizaines de milliards, hein.
Alors, on est simplement sur ces 4 pathologies-là, oui. On vient de faire un rapport au BCG qui chiffre à 100 milliards de dollars l'opportunité à 2030.
Et alors avec vous, Elsie, voyons si le marché, est-ce qu'il est prêt à suivre alors tout ça? Parce que là, on parle voilà, une centaine de milliards sur ces 4 pathologies. Est-ce qu'il est en train de mûrir ou est-ce qu'il est qu'on... Il va falloir faire sacrément bouger les choses pour qu'en fait, on perçoive ce marché vraiment comme un marché porteur.
C'est la bonne question.
C'est triste de parler de marché, mais voilà, c'est le cas aujourd'hui.
Mais il le faut, c'est la bonne question. Et la réponse, c'est les deux. Alors, est-ce que le marché est mûr? Est-ce qu'il existe? Une première partie de la réponse, c'est que le marché, pendant longtemps, en tout cas dans la dernière décennie, par manque d'investissement, l'innovation s'est focalisée sur des solutions de technologie, des solutions digitales, des solutions d'accompagnement qui étaient dirigées directement vers les patientes, pas vraiment vers les médecins. Et donc, ce n'est pas de la vraie innovation thérapeutique, entre guillemets, telle qu'on peut en avoir en oncologie.
C'est quoi, c'est du bien-être, choses comme
c'est
ça?
C'est beaucoup des solutions de bien-être, exactement. C'est nécessaire, mais ça ne peut pas soigner des pathologies de la même façon qu'on ne soigne pas le cancer du sein aujourd'hui sans penser radiothérapie, chimiothérapie. Donc, on a un marché qui, effectivement, a pu manquer un peu de maturité, mais c'est en train de changer puisqu'il y a beaucoup de femmes maintenant qui rentrent dans ce domaine de l'innovation médicale et qui souhaitent changer les choses. Et ce que l'on sait, et c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est que le marché, par ailleurs, a des fondamentaux très solides. Pourquoi et comment on le sait ? C'est assez simple, il y a des fonds d'investissement très spécialisés et qui sont bons dans le fait d'identifier des domaines très rentables, comme les fonds de private equity, qui sont très présents dans la santé de la femme. On a de bons exemples en France, donc un grand fonds comme Astorg, qui a fait le succès d'Achera Pharma, qui est le grand succès français en santé de la femme, qui a été revendu plus de 2 milliards à Périgo. Donc un très grand succès, qui aujourd'hui, Astorg a recréé une nouvelle société qui s'appelle Nexprime dans la santé de la femme. Donc de nouveau, un fonds qui est actif en santé de la femme. On a des grands fonds comme PAI, comme Carlyle, qui ont investi dans Theramex, aussi société française en santé de la femme. Donc les fonds d'investissement sont là. Les fonds plutôt des phases amont sont là aussi.
Alors c'est quoi le problème?
C'est quoi le problème? Le problème, c'est entre les deux. C'est ça la question. Le problème, il se situe en fait dans ce qu'on peut appeler un peu cette vallée de la mort du financement, qui est entre les phases amont de développement et les phases de mise sur le marché de commercialisation. Et ce sont des phases critiques, puisque c'est dans ces phases, en pharma, que l'on vient tester l'efficacité d'un médicament, identifier la dose, et donc en fait être capable de mettre un médicament sur le marché. Et c'est là où pour l'instant se situe l'écart.
Alors avec Biop, vous connaissez bien ce marché justement. Vous les voyez où un peu les opportunités dans ce secteur?
En fait, les opportunités sont nombreuses. Elles sont souvent méconnues justement parce que ce sont des sociétés qui sont encore à un stade relativement précoce. Je vais vous donner un exemple. J'accompagne depuis son lancement une société qui s'appelle WOMED, qui est une très belle start-up française dans le domaine de la santé utérine. Alors la santé utérine, c'est pareil, c'est encore moins connu que la santé des femmes. Ce sont toutes les pathologies qui touchent l'utérus, dont Johanna nous parlait tout à l'heure, notamment les fibromes, l'endométriose, etc. Oui. Et que l'on peut venir traiter grâce à la technologie de WOMED localement, via l'utérus, et pas avec des prises de médicaments à des doses plus importantes en systémique, ce qui s'appelle en systémique par voie orale. WOMED aujourd'hui coche tout un tas de cases qui normalement plaisent beaucoup aux investisseurs. Premièrement, joli portefeuille de produits. Un premier produit qui est en fait un pansement qui vient aider à une bonne cicatrisation de l'utérus en cas d'intervention chirurgicale. C'est très important si on veut éviter les problèmes de fertilité. Ce produit est approuvé, lancé en Europe, approuvé par la FDA en cours de lancement aux États-Unis. Et il y a d'autres produits qui suivent, notamment dans le domaine des fibromes. Donc, les produits, on les a. Deuxièmement, les investisseurs. C'est une société qui, dès son stade précoce, a été repérée par André Ullmann, le fondateur d'Achera, donc un grand monsieur de la santé de la femme en France, qui a fait partie des investisseurs. Et avec André, sont arrivés un certain nombre d'investisseurs, notamment des fonds que je citais tout à l'heure, Astor, PAI, Carlyle. Donc, on coche aussi la case d'un certain nombre d'investisseurs, y compris un investisseur institutionnel, IRDI, autour de la table. La troisième question, donc, c'est est-ce que, cette fois-ci, le financement et le marché vont suivre? Écoutez, on est en pleine levée de fonds. Donc suspense, j'espère qu'on se reverra dans quelques mois avec un grand succès à notre actif, parce que c'est ce genre de sociétés qui sont un peu des tests grandeur nature de ce que va pouvoir devenir le marché.
On a parlé de plusieurs pathologies là aujourd'hui, quelles sont lesquelles où il y a des grands angles morts pour dans le domaine de la santé des femmes?
Alors, il y a un certain nombre de justement pathologies autour de l'utérus qui sont vraiment les angles morts. Les fibromes, vous ne m'avez pas demandé ce que c'est, je ne sais pas si tous les gens qui nous écoutent savent ce que sont les fibromes. Ce sont des tumeurs bénignes qui peuvent arriver autour notamment des tissus utérins, qui créent des douleurs, qui créent des saignements. Beaucoup de femmes, là aussi, en fait, doivent subir une errance diagnostique avant d'être diagnostiquées correctement. Et c'est pourtant une pathologie relativement fréquente. L'endométriose, évidemment.
Alors, l'endométriose est un peu plus médiatisée à un moment,
Mais c'est à double tranchant, puisque on a presque l'impression d'avoir déjà fait le travail. Ça y est, maintenant on en parle. Mais il ne suffit pas d'en parler.
Le risque, c'est de banaliser ça et de dire, voilà, bah, on s'en occupe.
On s'en occupe. En fait, on ne s'en occupe pas encore assez. Vous avez tout à fait raison. On dit qu'on s'en occupe. On en parle, mais on ne la traite pas bien du tout, parce que c'est une pathologie qui n'est pas bien comprise. Et évidemment, Johanna en parlait tout à l'heure, la ménopause, le grand absent. Et ces trois pathologies, en fait, représentent aujourd'hui moins de 2% des investissements en santé de la femme. Donc, même au sein de la santé de la femme, c'est des pathologies qui sont absolument sous-adressées.
Et là, je vois bien le sujet pour la ménopause. On le banalise parce qu'on se dit, de toute façon, toutes les femmes qui vieillissent normalement y arrivent, quoi qu'il arrive. Et donc, la santé, tout le monde doit s'en occuper.
Oui. La ménopause, c'est absolument fascinant parce que c'est quand même toutes les femmes, un tiers de leur vie. Chaque année en France, c'est
un tiers de leur vie, c'est vrai qu'on va
C'est 500 000 nouvelles femmes chaque année. Donc c'est un marché colossal. 90% des femmes en âge reportent qu'elles ont des symptômes, seulement 60% consultent et seulement 25% sont traitées.
Oui.
En Angleterre, on a une étude qui montre que plus d'une femme sur quatre a envisagé de quitter son travail du fait des conséquences de la ménopause.
Oui.
Parce qu'en plus, il y a une sorte de tabou, on n'est pas à l'aise, on ne veut pas en parler, c'est
donc
socialement...
Donc il y a un vrai enjeu économique.
Et en termes de santé, au moment de la ménopause, les risques cardiovasculaires triplent, les femmes perdent jusqu'à 20% de leur densité osseuse et les risques d'Alzheimer doublent. Donc là encore, on est sur quelque chose de colossal. Aux États-Unis, pour finir sur le volet économique, c'est 150 milliards de dollars qui sont liés aux conséquences de la ménopause, de frais de santé liés aux conséquences de la ménopause. Et là, un peu comme le disait Elsie, on a des solutions qui commencent à poindre. On a beaucoup de célébrités qui ont commencé à en parler. Halle Berry, Naomi Watts, qui ont pris parole, Elle Macpherson, qui ont commencé à dire « Moi, je suis ménopausée et ça ne me plaît pas. Et voilà ce qu'on peut faire et on peut faire des choses. » On a en France le débat politique qui s'est un peu ouvert. On a eu un rapport de Stéphanie Rist l'année dernière qui commence à documenter exactement là où on en est. Donc, il y a vraiment des choses. Et il y a beaucoup d'innovations qui commencent à poindre. En santé grande conso, évidemment, avec tout ce qui est compléments nutritionnels, etc. Des applications de services avec du coaching, mais aussi des choses de suivi de l'activité hormonale, donc beaucoup plus poussée. Des traitements hormonaux. Des traitements pour envisager le retard du vieillissement ovarien, puisque le fait de rester productive, ça permet de protéger, en fait. Donc,
il faudrait investir davantage dans tout ce qui est prévention, quoi. C'est un peu ça?
Dans la prévention. Alors, il y a le traitement des symptômes et il y a un peu la prévention ou le retard. Ce sont des pistes explorées par la santé. Sur les symptômes, il y a beaucoup de choses. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir aussi le développement de cliniques spécialisées. La raison pour laquelle la santé de la femme est un angle mort comme ça, c'est aussi parce qu'elle ne répond pas à la logique par organe. Donc la clinique spécialisée sur la santé de la femme, c'est un peu ce qu'a fait Midi Health aux États-Unis, qui vient de passer la valorisation à plus $1 milliard, qui vient de lever plus de $250 millions de dollars, donc quand même un succès colossal, avec un angle très tech, avec un angle virtuel, data. En France, on a aussi des cliniques qui se créent. On a Menocare qui est en train de se créer par Mathilde Neyman. Donc pas mal d'innovations là-dessus pour justement changer l'approche du parcours de soins, parce que ce parcours fragmenté ne permet pas de l'adresser correctement.
Eh bien, merci d'être venu parler de tout ça. Donc beaucoup de changements. Il faut que l'investissement mondial soit un peu plus reflète un peu plus les besoins spécifiques des femmes, et puis donc passer à l'échelle pour beaucoup de traitement. Merci à toutes les deux, Johanna Benesti, directrice associée senior au BCG, experte sur les questions de santé, et Elsie Boglioli, fondatrice et directrice générale de BioUp, experte des biotechnologies et de l'innovation en santé. Merci à toutes les deux. À très bientôt pour une nouvelle session BFM Stratégie.
BFM Stratégie sur BFM Business.